Ces 4 mois, je crois que c'était les 4 mois les plus pénibles que j'ai eu dans ma vie. Mais vraiment, c'était le truc le plus fou que j'ai dû avoir. Parce que ne pas dormir, déjà, on a l'impression de devenir fou. Bah, je pense qu'on devient un tout petit peu.
On a tendance à l'imaginer un peu linéaire. On naît, on vit, on meurt. Mais dans ce grand intervalle qu'on appelle la vie, le chemin n'a rien de rectiligne. On aime, on pleure, on trébuche, on se relève, on bifurque, on affronte, on rit, on apprend. Sur cette route sinueuse, notre seul véhicule, c'est lui, notre corps. Celui qui nous porte et nous déploie, celui qui nous permet des exploits, que ce soit de donner la vie ou de gravir l'Everest. Mais parfois, sa santé s'enraye et elle vacille. C'est alors que s'ouvrent une ou plusieurs parenthèses, entre lesquelles il va falloir l'écouter, comprendre les mots qui l'affaiblissent, les traiter ou apprendre à vivre avec, mais quoi qu'il arrive, un peu autrement que sans. Un sentier sinueux qui surgit au milieu de la route et sur lequel on vous emmène avec nous dans ce podcast. Que se passe-t-il quand la maladie, l'accident ou même des événements plus joyeux, comme la naissance, ouvrent une parenthèse dans nos vies ? Ce podcast vous est proposé par Hirst London, les cliniques Boisset et Cécile, et le quotidien 24h. Imaginez qu'un jour, comme ça, sans prévenir, il en soit fini du silence. À la place, un bruit omniprésent, lourd et strident, occupe soudainement tout l'espace dans votre tête. Il est si fort que vous ne parvenez même plus à vous endormir. Vous ne comprenez pas ce qu'il vous arrive et personne ne semble pouvoir vous expliquer d'où il vient ni ce qu'il est. De quoi devenir fou, non ? Cette histoire, c'est celle de Christophe. Sa vie sans silence a commencé presque du jour au lendemain. Il est alors sur la route depuis plusieurs mois en voyage avec sa femme.
La première fois que j'ai eu une petite alerte, je dirais qu'on était en Espagne. On était justement à Séville. Et à Séville, on avait un hôtel qui était très très bien placé d'un point de vue positionnement de ville, mais par contre, alors extrêmement bruyant. Et je vais m'acheter des bouchons d'oreilles pour pouvoir dormir, comme ma femme. Et quand je mets ces bouchons, c'est là que j'ai décelé qu'il y avait un bruit qui s'intensifiait. Et puis, comme un bruit de pompe, voilà, comme si on pompait dans la tête. C'était assez léger. Et puis, au fur et à mesure qu'on avançait dans le voyage, bah, ce bruit augmentait. C'est vraiment vers la fin du voyage que là, c'est devenu vraiment très, très compliqué. Le bruit s'était amplifié. C'était quasiment impossible de dormir. Le bruit changeait aussi. J'avais même l'impression que c'était comme si vous ouvrez un robinet de jardin après un hiver bien rigoureux. Vous savez, le bruit strident. Et ben, ce bruit, en fait, était vraiment rythmé par rapport à mon rythme cardiaque. Au départ, je l'entendais vraiment quand j'étais couché dans un endroit tranquille. Et j'avais de la peine à identifier si c'était un bruit qui venait d'une oreille ou de l'autre. Donc le bruit, je l'entendais vraiment quand je me couchais sur une oreille. Et puis quand je me couchais sur l'autre oreille, je l'entendais aussi. Donc en fait, j'avais l'impression que ça venait des deux oreilles. Et puis plus le bruit s'était intensifié, plus j'avais l'impression que ça venait du haut de la nuque, en fait. Couché, c'était intenable, quoi. Vraiment intenable. À la fin, c'était devenu intenable. C'est pour ça que quand on est arrivé à Madrid, on a décidé d'écourter, parce qu'on était justement censé faire toute la côte, en remontant de l'autre côté. Et non, on est rentré en ligne droite, parce que tout d'un coup, en l'espace de 2 jours, le bruit s'était intensifié de manière intenable, quoi. Moi, je me suis fait opérer du cœur en 2018. On m'a fait une plastie de la valve mitrale qui s'est bien passée, je me suis remis super, je fais du sport, enfin, tout va très bien. Et puis moi, mon premier réflexe, c'était « Ah, il y a quelque chose qui a lâché, il y a un cordage qui a... » Enfin, c'est des coutures qu'on me fait dans le cœur. Je me suis dit « Il y a un fil qui a dû lâcher et c'est pour ça que j'ai ce bruit. » Bah, moi, sur le coup, je me suis dit « C'est mon cœur. » Et puis je l'entends dans la tête, je ne sais pas pour quelle raison. Voilà. Donc moi, j'ai appelé mon cardiologue. Mon cardiologue, lui, m'a tout de suite dit « il faut rentrer, il faut faire des examens, il faut creuser. » Et c'est pour ça qu'on a écourté le voyage, en fait. Le vendredi, en rentrant, le premier truc que j'ai fait, c'était aux urgences. Et là-bas, comme c'est là-bas qu'ils m'ont opéré, ils ont pris mon dossier médical et tout de suite pensé à quelque chose effectivement lié à tout ce que j'avais eu. Première piste, c'était une dissection de l'aorte, c'est ce qu'ils pensaient. Donc automatiquement, ils m'ont fait tous les examens qui sont importants d'être faits, en l'occurrence un IRM. Et puis il s'avère que l'IRM, bah, il n'y avait rien du tout. Bon, là-dessus, ça m'a quand même rassuré parce que je me suis dit, c'est pas mon cœur. Mais ça m'a rassuré qu'à moitié parce que je suis rentré chez moi et puis de nouveau, le soir, c'était de nouveau de la folie, je pouvais pas dormir.
Christophe ne le sait pas encore, mais il est au début d'un long parcours pour découvrir la nature du bruit qui envahit sa tête. Le docteur Jean-Baptiste Zerlaut, radiologue, spécialiste en neuroradiologie diagnostique et interventionnelle à la clinique Cécile.
Une des problématiques, c'est que l'acouphène est une infection qui est très fréquente et très souvent à tort banalisée. Alors, soit banalisée par le patient au départ, puisque le patient ressent cet acouphène un matin, puis ensuite toute la journée ou parfois que la nuit, puis c'est seulement une fois que l'acouphène devient permanent et surtout invalidant que là, il va consulter. Donc déjà, il y a un retard à la consultation. Puis ensuite, les causes de ces acouphènes sont méconnues, ce qui retarde la prescription d'examens complémentaires comme le scanner et l'IRM, et retarde par conséquent le diagnostic. Et même une fois que le scanner et l'IRM sont faits, ce sont des causes qui sont très difficiles à voir sur les examens d'imagerie.
Ça faisait un moment que mon sommeil était très très perturbé. Ces 4 mois, je crois que c'était les 4 mois les plus pénibles que j'ai eu dans ma vie. Mais vraiment, c'était le truc le plus fou que j'ai dû avoir. Parce que ne pas dormir, déjà, on a l'impression de devenir fou. Bah, je pense qu'on devient un tout petit peu. Et chaque fois que... parce que je suis quand même retourné, je crois, 3 fois à l'hôpital, dont je crois 2 ou 3 fois même en urgence, parce qu'il y a même une fois où je me sentais super mal, mais super mal parce que j'avais juste pas dormi. Et puis, je me rendais compte que plus le temps passait, et puis plus je devais expliquer mon problème, moins je trouvais mes mots, et plus c'était confus, et plus moi-même, quand j'en parlais, j'avais l'impression de devenir fou. Et puis je voyais bien en face, les médecins, j'avais l'impression qu'ils pensaient que j'étais fou, quoi. Certainement, c'était une impression, parce que franchement, voilà, tout le monde a fait son possible, et puis que, visiblement, c'est une pathologie qui est, somme toute, très très rare, hein, visiblement. Mais j'avais vraiment l'impression d'être seul au monde, quoi. Seul au monde avec mon problème. Il y a le bruit, c'est sûr. Il y a l'inquiétude parce que ce bruit change. Des fois, il est extrêmement strident. À un moment donné, ça faisait des lancers. Puis après, ça creusait comme si on perçait. Ça faisait une... Quand je mettais la main derrière la tête, je sentais mon cœur battre juste en haut de la nuque, en bas de la tête. Donc vous avez cette espèce de pompe dans la tête où vous sentez qu'il y a quelque chose qui va exploser. Mais vraiment, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui allait exploser. Et ce bruit. Donc, je me souviens avoir été chez mon médecin généraliste à 7h du matin devant sa porte pour l'attraper pour qu'il me donne un somnifère. Ça faisait 5 jours, mais jamais j'ai pensé qu'on pouvait ne pas dormir du tout pendant 5 jours. Je me suis toujours dit, mais à un moment donné, je vais tomber. Non, 5 jours sans fermer l'œil, je me couchais au lit, ça allait pas. Je venais dans le salon, ça allait pas. Je mettais de la musique. Dès que vous mettez un casque, ça vous fait une espèce d'insonorisation et vous avez ce bruit de la tête qui surpasse tout. Infernal, mais vraiment infernal. J'en étais vraiment venu à me dire que ça allait pas pouvoir durer, quoi. Alors, je n'avais pas encore des idées noires à tel point, mais je voyais bien que si on ne trouvait pas la solution, c'était qu'une question de temps voilà, il fallait que quelque chose se passe, quoi.
L'impact numéro 1, c'est l'impact sur le sommeil. Parce que par définition, l'acouphène est un bruit qui devient invalidant lorsque tous les stimuli extérieurs disparaissent. Donc lorsque le patient se retrouve isolé dans sa chambre, dans son lit, là c'est là que l'acouphène devient le plus fort. Donc il va en général faire ensuite une fixation sur ce bruit et une privation de sommeil inéluctable, d'où une fatigue, une fatigabilité, et toutes les conséquences que ça peut avoir. Avec très souvent, c'est des gens qui ont des difficultés au travail avec des troubles de la concentration consécutifs au manque de sommeil. Et puis, ce sont des gens qui ne peuvent plus faire d'activité physique, puisque lorsqu'on pratique du sport, en général, la tension artérielle augmente et l'acouphène augmente en intensité. Donc, répercussions aussi sur la vie sportive et personnelle. En général aussi, un report sur les activités sexuelles qui disparaissent chez la majorité des patients. Donc, retentissement sur la vie sociale, parce que ce sont des gens qui sont très souvent incompris. Les rapports humains ne sont plus possibles parce que le patient n'est pas compris. Il y a des gens qui font des tentatives de suicide à cause d'acouphènes qui sont très invalidants, et ce, en l'espace de quelques mois. En général, il ne faut pas attendre plusieurs années pour que le retentissement personnel soit extrême. C'est en l'espace de 3-4 mois que ces gens n'en peuvent plus. Et en plus, ça c'est accentué par le fait que le corps médical ne connaît pas forcément toutes les causes et puis qu'on ne met pas le doigt sur le diagnostic et donc la proposition de traitement. Donc c'est tout un tas de facteurs qui, mis ensemble, font que la vie personnelle, professionnelle, familiale, sociale et le retentissement psychologique sont très importants.
Le bruit, il faut bien se rendre compte que c'est un bruit qui est extrêmement fort. Dans la tête, il y a une espèce de caisse de résonance. Et alors, je ne vais pas vous le mimer, parce que ce serait nul comme je vais le faire. Mais pour donner un exemple, à un moment donné, comme personne ne trouvait, mon fils faisant des études en TRM, justement, c'est scanner et tout ça, il a deux stéthoscopes, j'en ai pris un, et puis j'essaye d'écouter où j'avais ce bruit. Finalement, j'ai réussi à l'identifier, ce bruit, au niveau du cou. Vous pouvez mettre le stéthoscope à différents endroits, il n'y a qu'un seul endroit où tout d'un coup, le bruit que j'entendais dans la tête, je l'entendais au stéthoscope. C'est là que les choses sont un tout petit peu changées, parce que je pouvais arriver chez le médecin, il me dit « mettez votre stéthoscope ici, pas ailleurs, juste ici ». Ce bruit, j'ai pu l'enregistrer sur mon téléphone.
Un acouphène pulsatile, c'est un son qui réalise des pulsations régulières, synchrone du pouls, synchrone des battements cardiaques. Dans 100% des cas, le patient décrit le bruit comme étant pulsatile. Alors, il n'emploie pas le mot pulsatile, mais il fait un geste comme ça qui décrit la pulsatilité du cœur. Et puis, pour nous, ou pour le médecin traitant, en tout cas pour l'examinateur, il suffit de prendre un stéthoscope et puis de le mettre derrière l'oreille ou au niveau du cou. Et là, on entend ce bruit qui est synchrone du pouls. On peut prendre le pouls en même temps qu'on écoute avec le stéthoscope, et puis on a véritablement un son qui fait des pulsations identiques à celles du cœur. Très souvent, au début, quand l'acouphène pulsatile apparaît, c'est lors des moments qui font augmenter la pression artérielle. Donc pendant l'activité physique, au départ, ils vont aussi l'entendre et surtout ressentir une gêne pendant la nuit, quand le stimulus extérieur auditif disparaît.
Mais à ce stade, Christophe n'a toujours pas de diagnostic. Sa famille s'en mêle.
La femme qui me voyait vraiment dans un état de moins en moins encourageant, elle s'inquiétait pas mal. Et mon fils, lui aussi, il a commencé à chercher, à essayer de comprendre ce que j'avais. Et ça, c'était aussi super intéressant, c'est qu'il comprenait tout, parce que je lui en parlais. De plus, lui, il avait entendu le bruit, il l'entendait même en mettant son oreille derrière la tête. Donc lui, voilà, il a vraiment bien compris l'handicap. Il a commencé à regarder dans les bases de données, il s'est connecté sur des forums, même aux États-Unis. On a trouvé des associations de personnes qui ont ce genre de problème, qui postent leur bruit et puis qui en parlent, qui donnent un peu les solutions. Et finalement, je me souviens, avant d'arriver chez mon cardiologue, mon fils avait imprimé plein de trucs qui étaient basés sur une étude de 176 cas. Autant vous dire que c'est pas, il n'y en a pas beaucoup, hein. Où il y avait un espèce de protocole pour identifier si c'était ça ou autre chose. Et je me souviens, je suis arrivé chez le cardiologue, donc moi je lui ai laissé regarder, faire sa consultation. Et puis quand ça s'est arrêté, puis que je voyais qu'il y arrivait au bout, je lui ai dit, mais écoutez, je vais pas vous apprendre votre métier ou quoi que ce soit, parce que c'est très désagréable. Hein. Enfin, on est un peu mal à l'aise. Mais comme j'avais pas beaucoup de solutions, je lui ai donné les documents. Puis effectivement, il y avait un protocole qu'il a lu, et il a fait ce protocole en appuyant ici, et puis il a tout de suite identifié aussi un problème qui n'était pas cardiaque. Puis voilà, c'était aussi une piste qui s'est ouverte.
Le cardiologue l'aiguille alors vers un spécialiste en neuroradiologie, qui pose enfin le diagnostic de l'acouphène pulsatile.
Donc tout de suite, je me suis senti super à l'aise, il m'a écouté. Là-dessus, on a refait un IRM et il a tout de suite vu ce qu'il y avait. Et il a identifié le problème et puis il m'a tout de suite dit, ben voilà, ça s'opère. Et dans ce cas de figure, il faut d'abord faire une coronographie cérébrale pour être bien sûr de si on peut aller intervenir à l'endroit où il y a le problème. Mais si on peut aller intervenir à l'endroit, on va vous régler votre problème.
Les acouphènes pulsatiles, on peut les traiter de différentes façons. Lorsqu'on peut les traiter, parce qu'on ne peut pas tous les traiter, évidemment, la première étape, c'est de faire un examen d'imagerie, soit par scanner, soit par IRM, soit les deux. Là, on identifie la cause, en l'occurrence une malformation vasculaire, une malformation artério-veineuse ou une fistule artério-veineuse. Et ces malformations vasculaires, on va pouvoir les traiter par voie endovasculaire. Donc, ce sont des traitements qui sont mini-invasifs. Le principe, c'est de traiter la malformation par l'intérieur en passant par les vaisseaux du pli de l'aine, donc les artères et ou les veines fémorales. Et puis là, sous contrôle des rayons, on va monter des petits guides et des petits cathéters à l'intérieur de la malformation. Et puis, on réalise ce qu'on appelle une angiographie, un examen diagnostique très précis qui permettra de faire une véritable cartographie de la malformation.
Soulagement après cet examen et après 4 mois d'errance médicale, Christophe est opérable.
L'intervention se passe à Zurich, dans une clinique. Enfin, je dois dire que c'était un moment merveilleux, mais vraiment. Parce que vous êtes impatient, mais vraiment, je ne sais pas s'il m'avait dit on doit vous enlever la tête et puis après vous la remettre, j'aurais dit oui, enfin, parce que vous êtes tellement dans un moment où faites ce qu'il faut, quoi. Faites ce qu'il faut, mais il faut que ça passe. Et c'est vrai que ça fait un peu peur parce qu'il vous coupe au niveau de l'aine et puis il monte au niveau de l'artère et de la veine.
Puis là, on va injecter soit des liquides, soit des solides qui permettront de boucher la malformation par l'intérieur, toujours sous contrôle des rayons. Donc on peut avoir soit de la colle biologique, soit ce qu'on appelle des coils, qui sont des petites spires métalliques qu'on va libérer sous contrôle des rayons. Donc évidemment, le patient endormi sous anesthésie générale pour que la tête ne bouge pas, puisqu'on doit être très très précis. C'est une intervention qui comporte des risques puisqu'on se trouve dans la circulation veineuse ou artérielle intracérébrale. Donc c'est un lieu de passage de beaucoup de nerfs, des nerfs crâniens qui viennent du tronc cérébral pour aller ensuite au niveau du cou, au niveau de la face. Donc oui, c'est potentiellement dangereux, raison pour laquelle on va traiter ces malformations uniquement lorsque les acouphènes sont très invalidants.
Pour Christophe, c'est une opération sans complications et un réveil à la saveur particulière.
Je me réveille, plus de bruit. Depuis ce moment-là, vous vivez un moment d'euphorie comme j'ai rarement eu. Je me souviens pas avoir eu un moment autant d'euphorie sur le mois qui a suivi, quoi. Mais vraiment, vous êtes là, vous y croyez pas, vous couchez sur une oreille, il n'y a pas de bruit, vous couchez sur l'autre, et les médecins viennent, vous leur dites c'est super. En plus de ça, on part un peu de mal à la tête, et puis vraiment, c'était rien, quoi. C'était rien du tout. Et c'est, bon, le médecin, ils sont venus me demander comment ça allait. Et vraiment, juste avant de sortir, il y a une chose que j'osais pas faire, c'est de mettre mes écouteurs. Vous savez, quand vous mettez les écouteurs, il y a le noise cancellation. Et ça, c'est terrible. Ça, c'est le test ultime. Parce que quand je mettais ces choses, comme ça isole le bruit extérieur, vous avez vraiment que le bruit de votre tête. Et c'est le test que j'ai pas osé faire avant de... Et c'est le médecin qui m'a dit non, mais faites-le. Maintenant que vous sortez, là, on voit bien que tout se passe bien. On vous a fait sous scanner, on a regardé, tout est bouché, enfin il y a plus de fuite. Et j'ai mis mes écouteurs, j'avais tellement peur qu'il y ait ne serait-ce qu'un micro bruit, mais il y avait plus rien. C'est vraiment on off. Enfin, vous êtes là dans une, imaginez, vous êtes dans un nightclub avec la musique à fond, vous en pouvez plus, puis il y a un gars qui tourne le bouton et il y a plus de bruit, plus de bruit du tout. C'est jouissif. Vraiment, il y a pas un moment dans ma vie où tout d'un coup j'ai eu cette sensation de waouh.
fondamental pour un patient, dès lors qu'il entend un bruit qui lui paraît anormal, d'aller consulter. C'est vraiment un message très très important à faire passer. Le médecin généraliste est très compétent pour l'écouter, mais surtout pour l'examiner et ensuite orienter dans un premier temps vers une consultation spécialisée, notamment un ORL, pour rechercher une cause qu'on peut traiter facilement et qui permet de faire disparaître l'acouphène. Si ce n'est pas le cas, prescrire un examen complémentaire, le scanner, l'IRM ou les deux. Et ensuite, en fonction des résultats de ces examens, référer le patient au spécialiste. Et l'imagerie peut être normale, strictement normale, au début de la vie d'un acouphène pulsatile. Donc si l'imagerie est normale, on va revoir le patient très rapidement, éventuellement refaire un examen d'imagerie avec ce qu'on appelle des séquences dédiées à l'IRM, et ne pas hésiter à aller plus loin dans les investigations, notamment jusqu'à l'angiographie, pour vraiment aller au bout du diagnostic quand on est convaincu qu'on peut trouver une anomalie vasculaire difficile à voir sur les examens de routine.
Christophe, quant à lui, porte désormais un regard philosophe sur sa mésaventure.
Le fait de pas dormir, alors bon, certes, vous venez un peu fatigué et puis très nerveux et puis finalement vous sentez aussi que le corps il s'affaiblit, mais en fait pour m'occuper, parce que quand je m'occupais l'esprit, ben je pouvais ne pas penser à ce bruit. J'ai jamais été aussi productif. J'ai lancé un projet dans cette période et la nuit, plutôt que de tourner en rond dans le salon, j'ai écrit des textes, j'ai pondu un site web, j'ai pondu un concept complet. Et après coup, quand je regarde ce que j'ai fait, la masse de travail, et puis il y a que quand vous êtes dans un moment comme ça, je pense, de détresse où vous devez vous occuper de votre cerveau, que vous arrivez à fournir autant. Je suis même pas sûr que j'arriverai à le refaire. Si demain on me demandait, voilà, tu dois refaire le même projet pour quelqu'un d'autre, mais dans un autre créneau, je ne suis pas sûr que j'aurais cette espèce de rage de pouvoir le faire, quoi. Voilà, c'est le seul truc positif pendant ces 4 mois, c'est que pour m'occuper l'esprit, j'ai dû me lancer à fond dans quelque chose, quoi. En tout cas, arrivé au bout de l'expérience, je pense être plus heureux qu'avant. Voilà, ça c'est la bonne nouvelle, c'est que j'ai l'impression d'être très très optimiste depuis l'intervention.
Merci d'avoir écouté cet épisode d'Entre Parenthèses. Vous trouverez des ressources sur les acouphènes pulsatiles en lien dans le descriptif de cet épisode. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles et un commentaire sur votre application d'écoute préférée pour donner de la visibilité à ce nouveau podcast. Et surtout, n'hésitez pas, partagez-le et parlez-en autour de vous. Et nous, on se retrouve dans un mois. Thank you.